dans si grand nombre, franchement, ça encourage pour le futur de l'histoire. C'est vraiment fabuleux. Je me présente Marie-Ève, je m'occupe des services historiques qui s'associent. Donc voilà, en collaboration avec la revue Histoire engagée, dont nous avons des représentants ici, levez vos mains. Alors, ce soir, c'est le deuxième de notre série de cafés historiques. Nous allons avoir deux autres cafés cet hiver, le dernier jeudi du mois, donc en février et en mars. Donc, ce soir, c'est notre deuxième édition. On est contente d'inviter un conférencier de prestige, Louis-Pascal Rousseau, qui est à mettre la dernière touche à son doctorat en histoire des Autochtones. Donc, d'expliquer amplement son sujet. Louis-Pascal gagne sa vie depuis maintenant une bonne décennie comme consultant en histoire amérindienne également. Il a travaillé pour de nombreuses organisations, notamment, il m'en dit un mot tout à l'heure, la série, la télé-réalité sur le Nord-Ouest, les voyageurs du Nord-Ouest qui ont passé l'an dernier à TVA, si je me rappelle bien. Donc voilà, je vous demande de l'applaudir bien fort. Merci d'être là tout le monde.
Je n'ai même pas vu la télésérie, je dis en passant, je n'ai pas la télé chez moi. Je suis désolé, je n'ai pas une voix qui porte beaucoup, je vais faire de mon possible, mais non, ben, c'est les circonstances qui décident. Alors bonsoir à tous, j'aimerais, pour commencer, prendre quelques secondes pour remercier les gens qui ont rendu possible notre rencontre. Ce que vous devez savoir, c'est que comme vous, je suis un invité ici, je n'ai rien organisé d'événement. C'est la firme des services historiques et des associés qui a eu l'idée d'implanter le concept des cafés historiques à Québec. Toute l'organisation qui nous rassemble ici est le fruit du travail de cette firme-là. Vous avez vu Marie-Ève Boilette, c'est elle qui nous a invités, c'est elle qui m'a invité. Alors c'est pour ça qu'on est ensemble ici ce soir. Alors, merci à Marie-Ève. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre le temps de me présenter un peu plus en détail. Donc, évidemment, je suis un passionné d'histoire et je suis l'un des rares privilégiés à avoir la chance de vivre de ma passion. Donc, je travaille effectivement depuis une douzaine d'années dans le monde de la recherche en histoire. J'ai un pied autant dans le monde académique que professionnel. Dans le monde académique, c'est le parcours Université Laval aux études l'École des hautes études en sciences sociales en France. Et si la vie continue à me gâter, je vais bientôt aller à l'Université de Pennsylvanie, au McNeil Center for Early American Studies, qui s'occupe de l'histoire coloniale américaine, si la vie me gâte. Et parallèlement à tout ça, j'ai toujours travaillé à titre de consultant d'histoire pour différents clients. J'ai fait des travaux pour des organismes gouvernementaux, la Commission des lieux et monuments historiques, les affaires indiennes, des conseils de bande, des organismes métis, ministères de l'éducation, j'ai vogué d'un contrat à l'autre durant les 12 dernières années. Donc ça résume le portrait global de la situation. Dans tout mon parcours, je me suis intéressé et spécialisé dans l'histoire des métissages, métissage entre colons et amérindiens. Voilà. Donc, on m'a invité ici afin que je fasse une présentation sur l'histoire des métissages, mon champ de spécialisation. Plus précisément, il s'agit d'aborder un aspect de l'histoire qui tend à ressurgir dans les débats publics, soit les liens entre la population québécoise, francophone et les groupes autochtones. Donc, au-delà des négociations, du contexte de revendication dans lequel les camps et les opinions sont souvent très polarisés, plusieurs se demandent quels sont les liens sous-jacents qui relient la population de souche canadienne-française aux groupes autochtones. Alors plusieurs se questionnent publiquement sur la chose, comme les historiens de Denis Beaujois, Jacques Lacourcière, chez les anthropologues Serge Bouchard, Bernard Arcan. Bref, plusieurs sont prononcés publiquement et ont évoqué le fait que les Québécois dans leur arbre généalogique, peuvent très souvent et assez facilement trouver des ramifications dans un groupe autochtone, ce qui est vrai. Au-delà de la simple généalogie, la culture québécoise elle-même a puisé certaines de ses caractéristiques dans le monde autochtone. Bon, on évoque souvent cette réalité-là. À l'inverse, on aborde aussi parfois le fait que les différents groupes autochtones comptent parmi leurs ancêtres, des colons européens, sans pour autant que l'on remette en question leur identité amérindienne. Ce n'est pas le but de la chose. On rappelle souvent que les groupes autochtones sont reliés à des grandes familles québécoises, les Hervieux, les Riverains, les Bacons, les Saint-Onge, les Picard, les Fontaines, tout ça. Tranquillement, on a pu voir collectivement l'idée qu'il existe des connexions entre la population francophone du Québec et les Autochtones qui la peuplent. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour élargir ce type de démarche à une autre échelle. Vous savez, les cafés historiques ont été conçus pour amener les historiens à sortir leur cercle de spécialistes et à communiquer directement avec le public, le fruit de découvertes souvent inattendues et en lien avec l'actualité. Donc, j'ai tenté de m'inscrire dans cette logique-là. Et je suis ici pour vous parler des liens entre la population et les francophones et les Amérindiens. Pour vous dire que ces liens-là s'appliquent à une échelle beaucoup plus large que le Québec. En d'autres termes, je suis ici pour vous expliquer que la population de souche canadienne française entretient non seulement des liens avec les Autochtones du Québec, mais aussi ceux qui habitent tout l'intérieur du continent nord-américain. Si je vous dis que lorsque vous visitez une réserve amérindienne profondément à l'intérieur du continent, on peut parler de la Saskatchewan, de l'Alberta, on peut même parler du côté des États-Unis, au Dakota, en Oregon, même. Vous allez rencontrer des individus qui entretiennent des liens familiaux avec vous. Vous allez vous retrouver face à des gens qui sont reliés à des familles telles que les Beaulieu, les Poitras, les Laferté, Robidoux, Desjarlais, etc. Et au-delà des simples questions de connexion généalogique, qui peuvent être très anecdotiques, il y a une réalité culturelle qui se conjugue à tout ça. C'est que, bon, vous savez, là-bas, malgré le triste sort de l'assimilation, plusieurs langues amérindiennes sont toujours parlées à l'intérieur du continent par les personnes âgées. Et lorsque vous avez la chance d'entendre l'une d'elles, ben, vous allez retrouver des mots qui vous sont familiers. Ce que très peu de gens savent, même au sein de la communauté des historiens, anthropologues et linguistes, c'est que les langues autochtones parlées à l'intérieur du continent contiennent un vaste lexique de mots d'origine française qui est issu de l'épopée de la Californie. En fait, je suis ici pour vous parler de recherches qui sont faites par un tout petit nombre de spécialistes qui s'intéressent à l'héritage culturel laissé par les francophones aux Amérindiens à très large échelle, à l'échelle du continent nord-américain. Ouais. Dans son intérieur, de la côte atlantique. Tout ça dans le but de nous faire conscience à tous que des relations beaucoup plus profondes et beaucoup plus étendues qu'on ne croit, qui nous unissent aux Amérindiens. Est-ce que je parle assez fort? Ou...
Oui.
OK. Donc, au cours de la présentation, je vais vous amener à voyager dans l'espace et dans le temps. On va se promener sur le continent à différentes époques pour découvrir peu à peu l'héritage dont je vous parle. Vous n'hésitez pas à m'arrêter à tout moment si vous avez des questions. C'est le concept du café historique. Voilà, puis je vais vous faire entendre des enregistrements de terrain qui proviennent d'un peu partout sur le continent. D'un Indien âgé qui utilise le vieux français et les langues autochtones qui mélangent tout ça. Bon, je ne vous apprends de rien si je vous dis que... Je vais démêler mon petit bouton de feuille. Bon, si je vous dis que la Nouvelle-France s'est construite en partie sur le commerce des fourrures, même beaucoup plus tôt qu'on pouvait le croire au départ, les recherches historiques récentes montrent qu'au moins deux décennies avant Jacques Cartier, des pêcheurs européens fréquentaient les eaux du golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent. Il est ils établissaient sur la côte des petites installations qui étaient destinées au séchage du poisson. On venait pêcher, on avait nos prises, on allait sur la côte, on faisait sécher les prises, après ça, on embarquait tout ça dans le bateau pour vendre en Europe. Et tout ça avant Jacques-Cartier, bien sûr. Ces comptoirs-là, ces installations-là, ont fait office de premier poste de traite de fourrure. Dans les archives européennes, les différentes villes européennes, on voit les actes notariés qui enregistraient le départ des bateaux et leur contenu. On voyait qu'il y avait du matériel qui était destiné à la traite avec les Amérindiens. Quand les bateaux revenaient, il y avait le poisson, évidemment, et les fourrures qui accompagnaient tout ça. Donc, dès les premières heures de la Nouvelle-France, le commerce des fourrures fonctionne. À partir de la deuxième moitié du 17e siècle, les Français ne se contenteront pas d'attendre que les Amérindiens viennent leur apporter les fourrures. Ils vont aller au-devant sur le territoire, puis ils vont établir une série de postes de traite. J'ai des feuilles ici. Le réseau de postes de traite allait graduellement faire ses ramifications sur le territoire grandissant de Nouvelle-France. Donc, en 1763, lorsque la Nouvelle-France tombe aux mains des Britanniques, vous voyez, vous en prenez une chacun et vous passez la tête. J'en ai une vingtaine, je pense. Il faut le voir partager dans cette vingtaine. Donc, un vaste réseau commercial qui s'étendait globalement du Labrador à la rivière Saskatchewan, ça descendait jusqu'au golfe du Mexique. Donc, globalement, c'est tout l'intérieur du continent qui est occupé par le réseau de postes de traite. Et évidemment, les postes de traite fonctionnaient avec les coureurs des bois d'origine française et leurs descendants métissés. Et pour le commun des Québécois, la chute de la Nouvelle-France, la fin de l'épopée des fourrures. Dans notre esprit collectif, en 1763, le spectacle est fini, le vidéo tombe, et c'est le début de l'époque du Canadien français qui va bûcher l'hiver et cultiver la terre l'été. Le commerce des fourrures n'a comme plus de place dans notre conscience collective. Mais pourtant, le commerce des fourrures va perdurer après l'époque de la Nouvelle-France, il va être repris par les Anglais. Et les Anglais vont même l'agrandir et le faire se développer plus profondément sur le territoire. Si vous voyez dans les cartes, du côté de la petite carte, vous avez l'intérieur, la Nouvelle-France avec l'intérieur du continent tel que les Français en avaient conscience au moment de la chute de la Nouvelle-France. Donc on voit que ça s'avance jusqu'en Saskatchewan. Et si vous tournez de l'autre côté, vous avez la carte à l'époque d'Alexander Mackenzie. Donc, on est à la fin du 18e, en 1789. Et on voit que la conscience du continent s'est dilatée. Puis, dans le fond, la ligne noire qu'on voit, c'est principalement la route des fourrures. Ça s'avance un peu trop vers le nord, ça correspond au trajet d'Alexander Mackenzie qui est allé jusqu'à l'océan Arctique. Mais en fait, dans la pratique, le commerce des fourrures s'arrête au Grand Lac des Esclaves, qui est plus bas. Enfin, c'est des détails, mais tout ça pour dire que globalement, vous avez une représentation de la conscience du territoire à cette époque-là. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas ce qui se produit sur ces cartes aux États-Unis, mais il y a quelque chose de similaire qui se développe. Donc, les Anglais dirigent le commerce des fourrures, mais leurs ouvriers, les coureurs des bois, qui sur le terrain vont voir les Amérindiens, ils font des échanges avec eux, restent des francophones. Ce sont pour l'essentiel des Canadiens français, ainsi que leurs descendants métissés. Donc, à certaines années, même après la chute de la Nouvelle-France, il y a plus de 200 Canadiens français qui vont s'engager dans la traite des fourrures, s'avancer sur le continent. Et parfois, pour ne jamais revenir, ils vont trouver épouse avec les Amérindiens, ils vont vivre là, ils vont s'installer. le linguiste Robert Vézina. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être, il est passé récemment à Radio-Canada, une émission de Serge Bouchard, Le chemin de travail, mais peu importe. Il a fait une fantastique étude sur la présence des francophones au cœur de l'Amérique du Nord à cette époque, c'est-à-dire après la chute de la Nouvelle-France et jusque vers la fin du 18e, dans les compagnies de prêt de fourrure qui fonctionnent toujours. Et il a accumulé notamment des statistiques, puis selon les régions, selon les compagnies, il y a de 65 à 85 % du personnel qui porte des noms d'origine française. Évidemment, ça ne signifie pas pour autant qu'ils sont nécessairement francophones. Il y a peut-être un effet d'assimilation à travers tout ça. OK. Mais tout au moins, ce sont des gens d'origine française. C'est une situation qui prévaut au Canada comme aux États-Unis. En fait, jusqu'en 1816, la main-d'œuvre qui va travailler à la traite des fourrures dans l'Ouest américain proviendra en grande partie du Canada français. En 1816, le gouvernement américain interdit l'emploi des Canadiens dans la traite des fourrures sur son territoire. À partir de ce moment-là, la main-d'œuvre du réseau états-unien va s'angliciser. Mais le français va continuer à prédominer dans le Midwest américain pendant encore quelques années à l'intérieur du 19e siècle, jusqu'à la mi-temps du 19e siècle. On voit encore beaucoup de travailleurs francophones sur le territoire. Par contre, au Canada, la prévalence des Canadiens français dans le réseau français va continuer encore plus longtemps, jusqu'à la fin du 19e siècle dans certaines parties du Canada, même jusqu'au début du 20e siècle. Donc, les marchands de Montréal vont envoyer sur le terrain des commis. Les commis, c'est un peu comme les contremaîtres, c'est ceux qui s'occupent de l'administration des postes, qui s'occupent de gérer les voyageurs, le personnel local. La plupart de ces contremaîtres-là, ils sont britanniques, très souvent écossais ou irlandais même. Cependant, même s'ils sont britanniques, on exige d'eux, avant même qu'ils partent, qu'ils comprennent le français. Dans les archives de l'époque, on trouve des documents des compagnies de fer à Montréal qui disent, le commis doit avoir une bonne éducation, capable de gérer, faire les mathématiques, tenir les livres de compte. Et on dit tout le temps, he must have a knowledge of the French language. Dans les livres de compte des postes de fête eux-mêmes, l'essentiel des écrits est vraiment en anglais. Dans la plupart des cas, certains livres, même dans l'Ouest, sont tenus en français, mais dans la plupart des cas, sont tenus en anglais. Mais lorsqu'il est question du matériel, les commis notent la plupart du temps les choses en français. On va noter, par exemple, qu'un baguette de graisse, un fusil, des cartouches, etc., des dessous. Bref, on recourt au terme qui est utilisé par les travailleurs pour noter les choses. Une petite anecdote comme ça, je ne vais pas m'enfoncer trop dans les détails, mais de 1832 à 1834, il y a un prince allemand, Maximilien de, puis là je vais dire le nom en allemand, probablement tout croche, mais Neuwelt, qui visite l'Ouest américain, puis il note ses impressions. Et là, on est assez profondément dans l'Ouest américain pour l'époque, et il note la chose suivante. Quoique la langue anglaise soit celle de toutes les contrées de l'Ouest et qu'elle tend à y devenir de plus en plus générale, il est pourtant indispensable aux directeurs et aux employés de la compagnie des pelleteries de comprendre le français, attendu que presque tous les subordonnés le parlent et que toutes les rivières et tous les endroits du Missouri et des prairies occidentales portent des noms français. Bon, évidemment, on pense à l'Ouest américain avec tellement de petites localités, de noms de rivières en français, prairies du chien, etc. Bon. En somme, le français reste la langue de la fourrure pendant très longtemps. Et jusque quand, on peut se demander jusque quand le commerce des fourrures va perdurer, tout dépend de l'endroit. les États-Unis et le Canada sont des pays qui vont se développer essentiellement d'est en ouest, vous savez. Et à mesure que le mouvement vers l'ouest se produit, le défrichage s'effectue et l'économie forestière et agricole viennent remplacer le commerce des forêts. Donc, on oublie souvent que les régions de l'Ouest sont assez tardivement intégrées dans la sphère de souveraineté de ces pays-là. Par exemple, au Canada, il faut attendre la fin du 18e avant qu'il ne sauve la province du Manitoba. Mais encore là, c'est très tardif pour les critères de l'Ouest. Bon, il faut attendre 1905 pour qu'on mette sur pied les provinces de Saskatchewan, Alberta. Il faut attendre 1936 avant qu'il ne soit organisé l'envoi de colons au territoire du Nord-Ouest. 1936, mais là, on en vient à la jeunesse des personnes très âgées qui vivent là-bas. Et encore, je vous donne ici les dates officielles. Sur le terrain, à l'intérieur même des provinces, le développement n'est pas uniforme. Il y a certaines régions du Manitoba, bien que Manitoba ait été créé assez précocement pour ce qui est de l'Ouest canadien, mais il y a des régions du Manitoba qui n'ont pas été livrées à la colonisation européenne ou euro-canadienne, devrais-je dire, avant une période assez tardive au début du 20e siècle. Donc, il y a la fin des fourrures, elle fonctionne toujours et on est toujours dans l'univers de la chasse du semi-nomadisme. Et à travers tout ça, bien évidemment, il y a les missionnaires qui viennent se superposer à tout ça au fil du 19e, début 20e. Mais, bref, on s'imagine très peu à quel point, en quelque sorte, l'histoire de la traite des fourrures est fraîche là-bas. J'utilise cette expression-là souvent pour parler de ce qui se passe dans l'Ouest. Lorsque l'on rencontre des Amérindiens, lorsqu'on parle à des Amérindiens âgés, et on leur demande, où est-ce que vous êtes nés? Ils vont dire, est-ce que vous connaissez la rivière de telle rivière ou de la fin? Fait que, ouais. Bon, ben, il y a un embranchement avec un ruisseau, c'est là. D'accord. En quelle année? Est-ce que vous connaissez Henri Guette Moitreau? Oui, c'est ça. Elle était haute de même quand je suis né. Puis éventuellement, ils vont nous raconter que sur leur acte civil, on a noté une date de naissance qui correspond bien souvent à une date approximative, puisque leur famille a éventuellement rejoint la mission et fait enregistrer. Bon, le baptême a eu lieu, puis les missionnaires ont enregistré la date de naissance de manière approximative. C'est arrivé, il y a une vingtaine de jours. Bon, bref. Et ça, c'est une réalité. Il y a encore des gens qui ont vécu cette réalité-là et on peut les rencontrer. Bon, ça résume le portrait global. Maintenant, on va faire un grand bond dans le temps. Et on va se rendre en 1999. On va faire un petit bond dans l'espace, parce qu'on va aller juste à 5 fois. C'est moi qui est là, je suis un jeune étudiant en histoire. Je m'adresse à un prof avec lequel j'avais beaucoup de contact à l'époque, c'est Denis Delage, professeur d'histoire amérindienne. Et il me dit, tu t'intéresses à l'histoire amérindienne, il faut d'abord que tu ailles rencontrer des Amérindiens. Il ne s'agit pas de faire un voyage en autobus, aller passer un après-midi au village urbain, revenir, tout ça. Il me dit, il faut que tu sois complètement perdu, que tu t'ennuies de ta mère et que tu passes un séjour avec des Amérindiens, tu reviennes, puis après ça, tu vas en parler différemment. Très bien. Alors, il dit, va travailler au territoire du Nord-Ouest. En quelque part, c'est le bout de piste de la traite des fourrures sur le continent. Quand la traite s'est développée, le territoire du Nord-Ouest était vraiment le dernier territoire à être englobé dans la grande sphère commerciale des fourrures. Et c'est là où, en quelque sorte, l'histoire est la plus fraîche. Il n'a pas utilisé ces mots-là, mais bon, je les transpose ici de cette manière. Donc, souvent rencontrer des gens qui sont nés en joie, des gens qui ont connu l'époque missionnaire, et voilà, bon. Et là-bas, tout est à faire, au territoire du Nord-Ouest. Je suis allé là-bas, et j'ai travaillé premièrement pour le ministère territorial responsable de l'éducation. C'est un espèce de méga ministère où on, bon, il y a l'emploi, il y a la formation, il y a l'éducation, voilà. Méga ministère en termes conceptuels, en termes d'infrastructure. L'infrastructure personnelle s'est réduite à sa plus simple expression. Alors, à l'époque, le ministère voulait produire du matériel scolaire que l'on souhaitait adapter aux cultures autochtones locales. Alors, mon boulot, premièrement, consistait à me promener d'une communauté à l'autre afin d'accumuler des infos sur la culture et l'histoire de différents groupes autochtones. Et il y en a plusieurs là-bas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les langues autochtones sont officiellement reconnues par les territoires, par le gouvernement territorial. Et bon, selon les versions, il y en a 9 ou 11, dépendamment de si on considère certains parlés ou non comme des langues spécifiques. Bon, il y a toutes sortes de débats, mais on va dire qu'en gros, il y a 10 de langues amérindiennes officiellement reconnues. Et bref, pour me préparer, on m'a dit que ça passe toujours bien si, lorsque vous arrivez dans une communauté indienne, vous utilisez les formules de politesse locale. Donc, c'est pas de problème, j'en apprends quelques-unes, tout ça. Et on me dit, bon, essentiellement, la conversation va tourner tout de suite à l'anglais. Es-tu prêt à ça? Parce que, évidemment, j'avais un très bel accent. Non, pas bien. Donc, je me suis lancé là-bas. Et donc, je suis arrivé, et une des premières rencontres que je fais, c'est une personne âgée, puis ça, elle remarque mon accent, puis elle dit, where are you from? Je dis, from Québec. Coudon, t'es écarté. Tout de suite, la personne passe au français. Puis, qu'est-ce que tu viens faire dans le fort? Évidemment, le Fort Providence, les noms de localités ont souvent gardé les noms de postes de traite là-bas. Et donc, c'est comme ça que j'entre dans l'univers absolument incroyable des autochtones locaux qui ont conservé tout un héritage issu de la traite des fourrures et du monde francophone. Et c'est un héritage qui se manifeste de plein de manières différentes. J'ai mentionné un petit extrait. Donc, j'ai simulé un extrait de conversation en français. Mais là-bas, il y a une variété d'influences linguistiques diverses, d'héritages linguistiques divers. Les gens vont pouvoir s'adresser dans un français qui est tout à fait compréhensible pour vous et moi. Ils vont parfois utiliser un français dans lequel il y a quelques mots d'origine autochtone qui se sont introduits, mais souvent sans savoir que ce sont des mots d'origine autochtone. Ils n'ont pas de référence par rapport au français plus conventionnel parlé ici. Si un français conventionnel existe, on pourra en rentrer dans un débat. J'utilise un raccourci. Mais, bref, ils ne savent pas ce que une oreille extérieure est en mesure de comprendre. Donc, ils vont toujours tâtonner, tout ça. Et dans certains cas, le français est tellement imbriqué aux langues autochtones qu'on n'en pige que quelques mots. Parallèlement à tout ça, il y a des Amérindiens qui parlent leur propre langue, évidemment. Mais dans les langues amérindiennes, il y a un tas d'emprunts linguistiques au français. Dans ces cas-là, les termes français sont beaucoup plus difficiles à percevoir parce qu'ils sont prononcés à l'indienne. Par exemple, une carabine, ça va être les carabines. Bon, donc, la cartouche, ça va être une cartouche, et ainsi de suite. Donc, il faut, comment dire, être au fait de ces mots-là, quasiment, avant de les avoir entendus, pour ensuite les identifier dans une conversation. Je vais vous passer, faire circuler les feuilles, c'est le même principe que tout à l'heure. Voilà. Donc, quand j'ai réalisé ça, j'ai rejoint Betty Harnum, qui était l'ancienne commissaire aux langues officielles des territoires du Nord-Ouest. Et j'ai fait état de mes observations, puis j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au courant de ça ici? Elle dit, bon, elle est linguiste et elle a passé une grande partie de sa vie au territoire du Nord-Ouest. Elle a même appris les rudiments de la plupart des langues, est capable de converser, tout ça. Et elle, parce qu'elle parlait aussi le français, était capable de me dire, oui, oui, je suis au courant que ça existe. Mais en pratique, on a une idée hyper fragmentaire de la situation. C'est à peine si cette réalité-là est évoquée dans les publications. En termes de publication, on pouvait évoquer que ça existait, mais on ne découvrait pas du tout le phénomène. Et bref, et elle-même, Betty Harnum, avait à peine effleuré le sujet, était, comment dire, ce n'était pas son mandat de faire ça, puis il y a des besoins beaucoup plus pressants au point de vue de la préservation des langues, avant même de n'en scruter les détails, il faut les préserver. Donc son mandat à titre de commissaire aux langues officielles résidait plus, comment dire, se concentrait plus sur la préservation que sur ce genre de préoccupation-là. Donc, tout ça pour dire que finalement, on avait un champ libre devant nous. Et j'ai passé ensuite 2 ans à travailler, notamment à ses côtés, pour élucider la situation. Et bref, j'ai continué à voyager d'une communauté à l'autre, non seulement pour faire des entrevues, essayer de documenter par des enregistrements sonores cet héritage-là, mais aussi pour fouiller dans les documents et essayer de voir en détail quelles sont les racines historiques locales, pas, parce que là j'ai évoqué le contexte continental, mais localement, qui peuvent expliquer cette présence-là. Et bon, j'avais prévu de faire un grand survol historique des territoires du Nord-Ouest, mais je vais me limiter à l'essentiel. Donc, le premier Européen dont les archives laissent transparaître la présence dans la région, parce que ça, c'est une question, hein, c'est toute une question, l'idée du premier Européen arrivé, hein? Souvent, le premier Européen arrivé, on n'en a jamais pas, on ne peut jamais être certain de le trouver, parce que, évidemment, les coureurs des bois, ça faisait un plaisir d'être au-devant des autres et d'aller puiser des fourrures auprès des groupes amérindiens avant tous les autres. Et bref, il s'agissait souvent de leur propre chef, en dehors de toute activité officiellement enregistrée. Donc, souvent, quand on a trace de la présence d'un Européen, de l'arrivée officielle d'un Européen dans une région, bon, on se rend compte qu'il y a eu des prédécesseurs et qu'il y a déjà des enfants. Les prédécesseurs ont laissé des enfants métissés devant lui. Donc, souvent, c'est même, ça vous donne une idée du décalage entre l'arrivée officielle, officiellement enregistrée, et l'arrivée véritable. Donc, le premier Européen dont on enregistre officiellement la présence dans les archives, c'est Jacques Beaulieu, un coureur des bois qui a vécu localement avec une Amérindienne du groupe des Chipewyan dans les années 1770. Le couple a laissé à peu près aucune trace dans les archives, mis à part une mention très spécifique, quelques petites apparitions ça et là, mais on n'a pas de détails. Tout juste sait-on que les conjoints ont eu pour fils François Beaulieu Junior, qui est souvent appelé François Beaulieu II dans les sources, et qui, quant à lui, va être une des figures les plus célèbres de l'histoire régionale. Alors, il est né en 1771 et c'est un métis qui a grandi parmi les Amérindiens de la nation des Couteaux Jaunes ou Yellowknife, Et donc, il est devenu le chef à la Jésus. C'est l'émotion. Alors, il devient non seulement chef, mais aussi un commerçant de fourrure assez influent. Et on le retrouve comme guide et interprète dans le canot d'Alexander Mackenzie. Lorsque Alexander Mackenzie tente de rejoindre le Pacifique, il s'essaie une première fois, mais il se trompe. Il prend le chemin du Nord. Et finalement, il décide d'aller voir jusqu'au bout et remonte jusqu'à l'océan Arctique. En passant au territoire du Nord-Ouest, il prend à son bord François Beaulieu, qui va lui servir de guide. On le retrouve aussi en 1825, plus tard. John Franklin va solliciter ses conseils dans son voyage vers la mer Polaire. Et François Beaulieu va, on sait dans les archives que François Beaulieu va résider autour du Grand Lac des Esclaves, va circuler d'un région à l'autre, il va avoir un moment sept épouses avant de se convertir au catholicisme éventuellement, et là évidemment il va ne conserver qu'une seule. J'espère que vous entendez bien avec Et il y a toutes sortes d'anecdotes. Il y a une vie absolument fascinante parce que on est en plein cœur du continent nord-américain et il y a un phénomène géologique que je ne saurais expliquer, mais qui fait en sorte qu'il y a une rivière dont le lit est en sel là-bas. Et donc on peut cueillir le sel à même la rivière, le faire sécher. Et François Beaulieu est devenu extrêmement important parce que, évidemment, dans la traite des fourrures, le sel est un élément mondial pour la conservation de la nourriture. Et bref, il a exploité une mine de sel en plein milieu du continent, dans le réseau des postes de traite, et il est devenu influent notamment pour ça. Et là, on va faire un saut, on va parler des missionnaires qui arrivent dans la région au 18e siècle. Et il y en a un dont le destin est aussi flamboyant, c'est Émile Petitot. Bon, c'est un Français qui reçoit son ordination en France en 1862 et qui est envoyé en mission au territoire du Nord-Ouest. À ce moment-là, les missionnaires sont déjà présent au territoire du Nord-Ouest, mais ce qui le distingue des autres, c'est que celui-là va complètement se plonger dans le monde indien, puis à la limite va se détacher des infrastructures missionnaires, et même pour la congrégation des Oblats, il va susciter certaines frustrations, parce qu'à la limite, il va trop s'enfoncer dans le bois, puis ils vont avoir de la misère à communiquer avec lui. Et il apprend les langues indiennes. Et il a laissé derrière lui des livres fascinants. Si jamais vous tombez sur ça, il y a ça à la bibliothèque, il y a ça un peu partout. Ça s'appelle Tradition indienne du Canada. C'est un titre très banal. Je pourrais vous donner la référence si jamais vous voulez. Mais il consigne de manière assez détaillée des récits locaux, traditions orales, récits des origines, tout ça. Et c'est un monde fantastique. Et parmi les récits qu'il a consignés, c'est un en langue chipumiane qui est assez étonnant. Voilà. OK. Donc, je vous ai dit que Alexander Mackenzie, voulant découvrir le Pacifique à la fin du 18e, se rend finalement, emprunte la voie vers le nord et passe au territoire du Nord-Ouest. Il est reconnu dans l'historiographie traditionnelle comme étant le grand découvreur, mais du fleuve qui porte son nom, le fleuve Mackenzie. Mais lorsqu'on scrute un peu les archives, on apprend une toute autre version des choses, notamment celle consignée par Émile Petitot auprès d'un des descendants de François Beaulieu. Alors, c'est un récit qui est raconté à Émile Petitot en langue chipewyane. Et Émile en fait une traduction dans le livre dont je vous ai parlé. Et ça s'appelle « L'arrivée des Français ». Alors, le titre est assez ironique. Bon. Tout d'abord, lorsque les premiers Français arrivèrent de ce côté-ci des terres de partage, je les ai vus, moi qui vous parle. Devant moi, ces choses se sont passées, vous dis-je. Et là, évidemment, c'est en 1789, notre Émile Petitot, Alexander Mackenzie. Pour lors, un beau jour, on entendit dire, voilà qu'il vient d'arriver beaucoup de Français. C'est des Banley, en langage chipewyan. Il y a avec eux un grand chef, plus un chef subalterne. À part ces deux-là, il y a beaucoup de Français. Le grand chef Alexander Mackenzie, son chef subalterne, malheureusement, son nom m'échappe. Je sais que dans à ce moment-là, j'ai beau scruter ma mémoire tant que je veux. Je veux juste passer votre temps. Il y a avec eux beaucoup de Français. Dans son journal, Alexander Mackenzie fait état du fait qu'il y a 12 guides, compagnons avec lui, et il en nomme deux, Joseph Landry et un Mandeville. On a son nom de famille. Donc, mais on n'a pas le nom des autres, mais on peut soupçonner qu'ils sont évidemment d'origine francophone. D'ailleurs, le récit de Petitot vient corroborer ces soupçons. Donc, comme j'étais encore un adolescent, je demeurais avec mes parents. Cependant, je suis fils d'un Français, moi, vous le savez. Ma mère est une femme d'aînée, c'est la nation locale, qui ne parle que le cri. Ma grand-mère est une crise. Il y a donc 300 dans mes veines. Alors, les Français étant à peine arrivés, ils se dirigèrent vers la cabane de mon oncle, Jacques Beaulieu. Jacques Beaulieu. C'est un récit en chipewyan qui raconte l'arrivée des Français.
Les gens qui étaient
jeunes. Oui, c'est ça. Chez vous, y a-t-il quelqu'un qui entende le français, me demande-t-on. Les voyageurs qui circulent et qui découvrent officiellement le territoire, lorsqu'ils arrivent en quelque part, demande s'il y a quelqu'un qui parle français. Sans nul doute, leur répondit-on, nous sommes ici, français ou fils de français. Eh bien, alors toi, puisque tu es français, tu nous serviras d'interprète, dis à mon oncle Jacques, le grand chef des Blancs. Et là, c'est François Beaulieu qui s'embarque avec Petitot et qui va monter jusqu'à la mer. Donc, au territoire du Nord-Ouest, aujourd'hui, vous allez dans les communautés amérindiennes et métisses et vous rencontrez des Beaulieu partout, des La Ferté, des Mandeville, des Poitras, des Desjardins, partout. Pas simplement chez les groupes qui se considèrent métisses, chez les groupes amérindiens. Et les Amérindiens eux-mêmes vont reconnaître le fait qu'ils sont de racines françaises et ça ne leur empêche absolument pas de se sentir amérindiens. Et moi, je ne suis absolument pas là pour remettre ça en question en cours. C'est tout à fait légitime. On peut avoir des racines, n'importe quelle racine, et s'affilier à un groupe culturel, ça n'a absolument aucune importance. Et là, je crois que je vous ai fait assez patienter. Vous voulez entendre un peu les enregistrements? Donc, vous êtes très sages, vous ne faites pas beaucoup de bruit, c'est parfait, parce que mon radio n'est pas très performant. Et je vais essayer de rester simple, parce qu'il y a toutes sortes de variétés linguistiques qui découlent des contacts entre le français et les langues autochtones.
On a ça après?
Les langues autochtones, au-delà de formules de politesse, non. J'ai bien essayé. Par exemple, la localité de Snowdrift, à l'est du Grand Lac des Esclaves. Évidemment, Snowdrift, c'est
bourrasque
de neige. Ça se dit, et là, je me suis pratiqué très longtemps, Lutzelkei. Donc, c'est des sons qui ne sont absolument pas familiers à aucune langue occidentale. juste arriver à dire un mot correctement, ça, ça peut prendre une demi-heure. Et là, ben, on n'en est pas encore au vocabulaire. Je vais vous présenter, premièrement, un cas d'alternance codique. Alternance codique, en linguistique, c'est un mot, c'est un terme, des termes compliqués, tout simplement pour dire passer d'une langue à l'autre. Il ne s'agit pas de d'un mélange linguistique d'une langue hybride, mais bien de coupures à l'intérieur d'une même conversation d'une langue à l'autre.
Comme Justin Trudeau.
Oui, exactement. Il n'y a pas d'enjeu électoral. L'extrait que vous allez entendre, il va commencer par, je me souviens pas si c'est Koukoum ou Moukoum, mais Koukoum et Moukoum, ça veut dire grand-mère et grand-père, en cri. Alors il va dire Koukoum, bon, une fois, Moukoum, il s'en va voir Koukoum, il s'en va à la hauteur de chez Koukoum, et ça disait. Et là, on rapporte une conversation en langue Dogrid. On la traduit en anglais, on reprend la conversation en Dogrid et on fait le punch de la blague en français. Et vous allez entendre, c'est quelque chose d'assez grivois, mais il va dire « Comment est-ce qu'il est ton derrière? La maladie du docteur est dans ton derrière. » Et là, il part à rire. Bon. Je voulais expliquer d'abord parce que c'est pas évident, puis la qualité d'enregistrement n'est pas ce qu'il y a de meilleur. J'étais avec un enregistreur de Fisher-Price à l'époque. Le son est au maximum, donc vraiment, je suis vraiment désolé si on entend un peu de choses. Des choses comme... Bref, C'est vraiment des gens qui vont jongler avec les langues de manière tout à fait étonnante. Ils vont, les langues autochtones sont multiples là-bas, puis il y en a de familles linguistiques très différentes, aussi différentes que peuvent l'être l'italien et l'allemand. Et ils vont jongler d'une langue à l'autre sans absolument s'en parler. Maintenant, on va passer au midshif. Le midshif est une... Juste savoir, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Okay. Le midshif, c'est probablement la langue issue du français, du contact entre le français et les langues autochtones, la plus connue par le milieu de la recherche. C'est une langue assez étonnante dans laquelle la plupart, près de 95% des noms sont en français et près de 95% des verbes sont en cri. C'est une langue qui est parlée principalement par les communautés métisses du Manitoba, bien au sud des territoires du Nord-Ouest. Et là, il y a l'Institut Gabriel Dumont au Manitoba qui a fait des efforts pour enregistrer, préserver la langue et assurer sa diffusion. On trouve des extraits sur Internet. Les extraits n'ont pas été bien enregistrés, malheureusement. C'est encore pire que ce que j'ai fait. Mais bref, c'est là. Il y a aussi une grammaire qui a été écrite. C'est un linguiste danois, c'est étonnant que ça puisse paraître, qui est allé au territoire du Nord-Ouest et qui a consigné la langue et écrit une sorte de résumé historique et les principaux traits grammaticaux de la langue. Qui est assez étonnante parce que, contrairement à un créole, le midshif a une caractéristique atypique, c'est-à-dire qu'il conserve intactes les règles grammaticales qui s'appliquent au nom français, masculin, féminin, singulier, pluriel. Il conserve intactes la logique grammaticale qui s'applique au verbe cri. Les verbes cri s'accordent en fonction de l'état du nom. Un nom peut désigner quelque chose qui est animé ou inanimé. Dans l'esprit d'un cri, une table, ça peut être inanimé. Un ventilateur, ça peut être animé. Okay. Et le verbe va être conjugué en fonction. D'habitude, un créole génère ses propres règles grammaticales, ne conserve pas intactes les règles des langages desquels il provient. Mais le midshif fait ça. Autre caractéristique étonnante, il y a très peu de locuteurs de midshif qui restent, il y en a environ 500 encore vivants aujourd'hui, mais ces locuteurs de midshif-là ne comprennent pas le français ni le cri. Le midshif est vraiment leur langue. Je vais vous faire entendre un petit extrait. Ça implique un bol et une soupe. On comprend qu'il y a une soupe dans le bol où je mange mon bol. J'ai pas la traduction, mais vous allez comprendre la nature du jeu.
Den bol achta la soupe. Den bol achta la soupe.
La galette, manger.
La galette, gamo wow, avec la viande et les patates. La galette, gamo wow, avec la viande et les patates.
Une dernière.
La petite fille, les yeux bleus à yao. La petite fille, les yeux bleus à yao.
À yao. Elle a les yeux. Bon. Ainsi de suite. Donc, au territoire du Nord-Ouest, pour revenir au territoire du Nord-Ouest, on ne savait pas que le midshif était parlé. Un midshif qui est développé dans les prairies et qui a été amené par des métis. Donc, on est tombé, dans le cadre de nos recherches, sur une femme qui parlait midshif. Et qui se disait la seule. Ma famille parlait ça quand j'étais jeune, puis je n'ai jamais rencontré personne qui parlait ça. Et je vous passe un tout petit extrait. On a vraiment un tout petit extrait. Et c'est super rare parce que cette dame-là, malheureusement, aujourd'hui, elle est décédée. Et c'est le seul enregistrement d'elle où elle parle de Mitchell. On est vraiment dans cet ordre d'idée-là. Dans cet ordre de stress-là quand on fait la recherche. La recherche sur le sujet dont je vous parle, c'est un peu comme arpenter une île alors qu'elle s'érode, elle disparaît. Donc, on consigne ce qu'on peut, mais souvent, on arrive, puis c'est disparu ou c'est en train de disparaître. Et bon, on prend note de tout ce qu'on peut. Puis, Donc, elle dit, « What's the language on va parler? » Et c'est dans un contexte où elle raconte, parce qu'on cherchait du métier, elle raconte, les autres Indiens, ils parlent le français canadien de la place. Ils ne parlent pas le métier. C'est des Indiens, ils parlent le français canadien de la place. Donc, il m'a dit, voilà, vous l'avez compris. Et ensuite, elle dit, elle passe au français, parce qu'il faut savoir, c'est que les missionnaires, dans certaines localités, ont cherché à corriger le français qu'ils entendaient chez les Amérindiens. Et bref, dans des écoles, tout ça, bon, on a enseigné le français. C'était souvent des missionnaires québécois. Et donc, elle passe au français. Vous avez vu comment elle est fluide, elle parle très vite. Quand elle arrive au français, c'est très saccadé. Les verbes ne sont pas accordés comme il faut, c'est normal. Elle n'a jamais fait d'accord de verbe en français. C'est un peu pénible pour elle, puis bon, ça donne quelque chose comme ça.
Bonjour mes amis, et puis je vais vous montrer des histoires en l'air de ma vie. J'ai passé ma vie depuis 5 ans, c'est les soeurs de la Berta du Brian. J'ai appris beaucoup parler en français, surtout pas en anglais. J'ai rendu pour Suède, j'ai travaillé, et j'ai 17 years, j'ai travaillé en portugais. J'ai appris un peu parler en français, mais pas trop, je parle en anglais. Mais j'ai trouvé beau un Tchouboyan en portugais.
J'ai trouvé beau un Tchouboyan, c'est son
avis. Depuis un temps, il vivait, puis ça priait bien, pas comme l'année qui passe. Puis les anciens mots, les petits-enfants, perdu les prières, moi je pense. Depuis que j'ai fait mes prières, encore aujourd'hui, je n'ai pas fini encore pendant toute ma vie. Et merci beaucoup que j'ai parlé avec vous autres.
Puis là, évidemment, on aborde tout le côté très catholique des personnes âgées en milieu autochtone. Souvent, on espère retrouver une tradition chamanique, tout ça, puis on se dirige vers les personnes âgées. Mais la tradition chamanique, on va la retrouver plutôt chez les gens qui la génération suivante, peut-être à partir de ceux qui ont 50 ans, et qui font un retour et qui se réapproprient le chamanisme de leur manière, c'est très bien. Mais chez les personnes âgées, typiquement, ils se disent catholiques. Par contre, et là, j'ouvre un nouveau volet qui n'a absolument rien à voir avec les questions linguistiques. Il y a un tas de croyances qui, malgré le fait qu'ils soient catholiques, qu'ils se réclament comme tel, il y a un tas de croyances qui restent. Par exemple, j'étais tout fier d'exposer chez nous une peau de martre, parce que quelqu'un m'avait montré à la tannée, c'était ma grande réussite, il dit « T'accroches jamais la fourrure sur les murs. Tu fais pas ça. » Puis, j'ai jamais su pourquoi, mais la personne à qui j'avais dit ça, elle s'est montrée totalement offusquée. J'en ai parlé au missionnaire local, qui était le père Pocha, qui est un Nobla belge, qui travaille là-bas. Et j'ai dit, il dit, oui, ça, il y a plein de trucs comme ça. Il ne faut jamais s'asseoir sur une peau d'ours. Il ne faut jamais... Bon, il y a un ensemble de... Et il y a toute une croyance sur les esprits, sur ce qui réside. Et tous ces gens-là vont se dire catholiques. Je m'étais rendu à Ray Edzo, qui est une localité proche de Yellowknife, quand même une assez grosse communauté amérindienne, environ 4000 personnes. Et la meilleure façon de rencontrer les Amérindiens, c'est d'aller à la messe le dimanche, parce qu'ils y vont presque tous. J'arrive, l'église est pleine, et c'était le dimanche des rameaux. En bon Québécois, de ma génération, j'étais absolument pas au courant. et bref, c'était une messe qui était très longue, et j'étais tétanisé de voir à quel point le ton des Amérindiens, vous savez, dans une messe, bon, la foule intervient à certains moments. Lorsque les Amérindiens intervenaient, le ton était incantatoire. C'était pas simplement des gens blasés, bon, le Seigneur est avec vous, Esprit. Bon, non, c'était incantatoire, les gens avaient les yeux qui brillaient, tout ça, puis on voyait qu'il y avait une ferveur qui n'existe pas ou qui ne s'exprime pas du tout comme ça chez les catholiques qu'on peut trouver ici, par exemple. Bref, il y a un ensemble de traits culturels absolument fascinants. Je ferme la parenthèse. Je continue pour vous dire, bon, évidemment, il y en a qui parlent le français, surtout des vieux métis, ou même...
Je m'en vais. Je m'en vais dans quoi?
Je m'en vais dans quoi?
Pour voir mes pieds.
Et il va dire, piège means traps in our local dialect. Parce qu'il n'a aucune idée des mots qu'une oreille extérieure peut comprendre. Donc, il spécifie que le mot piège means traps. Parce que, probablement, dans son esprit, c'est un mot d'origine indienne. Ce qui est normal, parce que les Amérindiens, quand ils parlent leur langue, vont utiliser le mot piège. Quand ils achetaient des pièges au poste de traite, des pièges en métal, ils vont pouvoir, ils appellent ça les pièges. Donc, les Amérindiens, quand ils parlent leur langue, ils vont dire, je ne sais pas, Iji, les pièges, Shaniha. Ça veut dire, amène-moi le piège. Sans savoir que c'est un mot d'origine française. Donc, lui, il parle français, il dit, je m'en vais voir mes pièges, puis il dit, je te spécifie les pièges. C'est un mot d'origine, ça veut dire main strap. Okay? Parce qu'il pense que c'est un mot d'origine amérindien. Le son n'est pas très bon, j'aurais fait ça, mais il dit amène mon capot, bring my coat. Et ainsi de suite. Je pourrais continuer pendant longtemps, je vais tout simplement terminer avec une chanson tout à fait étonnante d'une dame qui ne comprenait presque pas le français, mais qui avait retenu une comptine française à chanter à ses enfants. Pour les Bénés, c'est le Té Chon, de l'eau de l'abondance.
Vous allez entendre Massé, Massé Cho.
Ah, Massé, Massé Cho.
C'est souvent le dernier mot que les Amérindiens vont savoir, ceux qui ont subi l'assimilation. Les jeunes, pour montrer leur fierté d'appartenir à un groupe d'aîné, vont continuer à se dire Massé entre eux. Là, évidemment, on est au territoire du Nord-Ouest. On dit en quoi ça s'applique ailleurs sur le continent. Ben, je vais terminer en faisant des petits parallèles. Dans les groupes des spécialistes, et là, je parle de, bon, j'ai évoqué quelques noms, il y a Robert Vézina, bon, Gilles Labarre, il y a quelques spécialistes qui gravitent dans le domaine, Robert Papen, Peter Baker. Bref. Comment dire, c'est une communauté de peut-être une douzaine de chercheurs qui est capable de. Qui partagent les mêmes repères. On dépouille peu à peu les situations à gauche, à droite sur le continent et on en vient à avoir une idée de l'étendue de ces phénomènes-là. Vous avez sur la feuille un lexique. Du côté de la grille, tout ça. C'est tous des mots qui ont été répertoriés dans les premiers territoires du Nord-Ouest, des mots d'origine française dans les langues d'aînés. Ben, ça, on retrouve des listes semblables dans d'autres langues un peu partout sur le territoire. En Louisiane, le français qui était historiquement encore plus présent, imprègne encore plus les groupes amérindiens. On n'a qu'à penser aux Houma, qui est un groupe d'environ 10 000 personnes, dont une bonne part, surtout chez les personnes âgées, vont parler carrément le français. Il y a Turtle Mountain au Dakota, où les gens parlent français aussi. Il y a un ensemble de phénomènes comme ça. Et le mot de la fin, je le laisse à Léonard Pelletier. Peut-être que ce nom-là vous dit quelque chose. En fait, Léonard Pelletier, c'est un activiste amérindien, états-unien, qui, dans les années 70, a milité au sein du mouvement amérindien. Et bon, il a fait plusieurs coups d'éclat, c'était des coups d'éclat médiatiques, tout ça. Bon, il était très contestataire et il est arrivé un incident. Deux agents du FBI sont morts. Et il a été inculpé du meurtre de ces deux agents-là. Et il s'est retrouvé en prison et il clame depuis son innocence. Il y a toutes sortes de mouvements qui l'appuient, Amnesty International l'appuie, tout ça. Et si je me réfère à lui, c'est pas dans un objectif politique, tout ça. Je vous laisse vous informer vous-même à son propos et de juger la situation par vous-même. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit des langues autochtones. Léonard Pelletier, bon, évidemment, on s'en doute, il a des racines françaises. En fait, c'est Léonard Pelletier, on va dire. Et là, c'est la traduction française. Il est encore plus chouette en anglais parce qu'il recourt à la langue française dans ses écrits en anglais. Évidemment, une fois que c'est traduit, on perd tout ça. Donc, enfin, je parlais couramment en anglais et la langue des Métis, un mélange de français et de diverses langues indiennes. Et je me débrouillais en Sioux, en Ojibwe et en français. Dans la mesure où chaque langue nous donne une vision différente de la réalité, j'ai vite compris que nous devons affronter toutes sortes de réalités dans la vie.